Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1637. Le discours de la méthode est un traité philosophique bref de René Descartes, rédigé en français afin de rejoindre un public plus large que celui des savants latinistes. Il sert de préface aux essais scientifiques intitulés La dioptrique, les météores et la géométrie, mais possède une cohérence propre. Descartes y raconte de façon contrôlée son itinéraire intellectuel, puis propose une discipline de pensée destinée à orienter la recherche de la vérité. Son enjeu ne consiste pas seulement à formuler une doctrine, il vise à montrer comment une raison ordinaire peut examiner ses croyances, organiser une enquête et éviter les jugements précipités. Le texte associe autobiographie intellectuelle, règles de méthode, morale pratique, métaphysique et réflexion sur les sciences de la nature. La formule « je pense donc, je suis » y marque la découverte de la première certitude obtenue par le doute. Cette édition scolaire met en valeur une œuvre capitale pour comprendre la naissance du rationalisme moderne et les ambitions de la science au XVIIe siècle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les quatre règles qui transforment la recherche en procédure contrôlée. Le noyau du discours réside dans quatre préceptes qui donnent une forme opératoire au bon usage de la raison. La première règle exige de ne recevoir pour vrai que ce qui se présente avec évidence dans la clarté et la distinction, afin de limiter les erreurs causées par la précipitation ou les préjugés. La deuxième demande de diviser chaque difficulté en autant de parties que nécessaire. Une question complexe devient alors traitable par analyse plutôt que par intuition vague. La troisième règle impose de conduire la pensée des objets les plus simples vers les plus composés, elle fournit un ordre de construction des connaissances. Enfin, la quatrième prescrit des dénombrements et des revues assez complets pour ne rien omettre. Ces règles ne constituent pas une recette qui produirait mécaniquement toute vérité. Elles définissent plutôt une discipline intellectuelle suspendre un assentiment trop rapide, isoler les éléments pertinents, établir des liens justifiés et contrôler le résultat. Leur modèle implicite est mathématique, mais leur portée dépasse le calcul. Elles expliquent pourquoi le cartésianisme associe la vérité non à la tradition ou au prestige social, mais à un cheminement que chaque esprit doit pouvoir vérifier. Le livre conserve ainsi une valeur de formation à la rigueur argumentative. Deuxièmement, le doute méthodique comme épreuve des certitudes reçues, Descartes ne doute pas pour installer un scepticisme définitif. Son doute est méthodique, volontaire et provisoire, il cherche une proposition capable de résister aux raisons les plus fortes de douter. Les sens peuvent tromper, les raisonnements peuvent contenir des erreurs, et même les expériences familières ne garantissent pas toujours que la veille se distingue du rêve. Cette mise à distance des croyances reçues rompt avec un savoir fondé sur la seule autorité des maîtres, des livres ou des habitudes collectives. Toutefois, elle ne signifie pas que toute opinion est fausse. Elle signifie que toute opinion dont la justification demeure insuffisante doit être tenue en suspens pendant la recherche. La démarche atteint son point décisif avec la certitude du cogito. Si un sujet doute, il pense. Et s'il pense, son existence comme être pensant ne peut être niée au moment même où elle est pensée. La force de cette découverte vient de sa réflexivité, la tentative de nier la pensée la confirme. Le discours établit donc un point de départ pour reconstruire le savoir. Cette stratégie fonde la priorité cartésienne accordée à la certitude rationnelle et explique son influence durable sur la philosophie moderne. Troisièmement, une morale provisoire pour agir pendant que la vérité reste en examen. La suspension du jugement théorique pourrait devenir paralysante si elle empêchait toute décision dans la vie courante. Descartes répond à cette difficulté par une morale provisoire, ensemble de maximes destinées à guider une action raisonnable tant que la recherche philosophique demeure inachevée. Il recommande de suivre les lois et coutumes du pays, en privilégiant des positions modérées, de demeurer ferme et résolu dans les décisions prises, de travailler sur ses désirs plutôt que de prétendre soumettre le monde entier, enfin de consacrer sa vie au développement de la raison. Cette morale ne se confond pas avec une morale démontrée de manière définitive. Elle reconnaît que les circonstances imposent souvent de choisir avant de posséder une connaissance parfaite. La résolution protège ainsi contre une hésitation continuelle, tandis que la modération prévient le dogmatisme. Le principe consistant à se vaincre soi-même plutôt que la fortune traduit une attention à ce qui dépend de notre jugement et de notre volonté. Cette partie révèle une tension féconde du livre Descartes, réclame une exigence extrême de preuves pour la science, mais il admet que la conduite humaine exige des règles prudentes, adaptées aux limites concrètes de la délibération. Elle rend la méthode applicable à une existence réelle, et non seulement à un laboratoire intellectuel. Quatrièmement, du cogito à la distinction entre âme pensante et corps matériel, après avoir établi la certitude de son existence comme sujet pensant. Descartes développe les conséquences métaphysiques de ce point de départ. La pensée se définit par des actes tels que douter, comprendre, affirmer, nier, vouloir ou imaginer. Le corps, au contraire, relève de la matérialité et de l'extension. Cette distinction prépare le dualisme cartésien entre la chose qui pense et la chose étendue. Elle ne signifie pas que les êtres humains ne vivent aucune union entre esprit et corps. Mais elle affirme que les deux réalités peuvent être conçues selon des attributs différents. Dans le discours, cette orientation sert aussi à donner une base à la connaissance, la pensée se saisit avec une certitude que les données sensibles ne possèdent pas immédiatement. Descartes relie ensuite la garantie des idées claires et distinctes à sa démonstration de Dieu, conçue comme être parfait et non trompeur. Ces passages sont inséparables du projet global, sans un principe assurant la fiabilité de la raison, lorsqu'elle atteint une évidence, le savoir reconstruit resterait fragile. Pour un lecteur contemporain, ces arguments appellent discussion, notamment sur la preuve de Dieu et sur la séparation de l'esprit et du corps. Leur intérêt historique et philosophique demeure majeur, car ils organisent un modèle du sujet connaissant qui marquera profondément la pensée occidentale. En dernier lieu, le projet scientifique et les limites historiques de la physique cartésienne, le discours ne réduit pas la méthode à une spéculation sur la connaissance. Il la présente comme le fondement possible d'une recherche utile en médecine, en mécanique et dans la connaissance de la nature. Descartes espère que les sciences permettront aux humains de devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Formule qui exprime un idéal de puissance pratique obtenu par la compréhension des lois naturelles. La cinquième partie résume notamment des idées physiologiques et une explication du mouvement du cœur ainsi que de la circulation du sang. Ces développements doivent être replacés dans la révolution scientifique du XVIIe siècle. Ils témoignent de la volonté de substituer des mécanismes intelligibles aux explications fondées sur des qualités obscures ou sur la seule tradition. Ils ne doivent pas être lus comme un manuel de biologie actuel, plusieurs thèses empiriques de Descartes ont été dépassées ou contestées, y compris face aux travaux de William Harvey. Cette limite ne ruine pas la portée du texte. Elle distingue justement une méthode de ses résultats circonstanciels. Le livre montre que la science avance par hypothèse, observation, raisonnement et correction, non par la conservation immobile de conclusions anciennes. Il expose aussi une prudence de publication Descartes, évoque les obstacles sociaux, religieux et pratiques qui entourent la diffusion des recherches nouvelles. Cette dimension situe la méthode dans une histoire concrète des savoirs. En conclusion, le discours de la méthode convient en premier lieu aux élèves, étudiants et lecteurs qui souhaitent aborder un texte fondateur de la philosophie moderne sans commencer par un traité très long. Il intéressera aussi les personnes désireuses de comprendre les origines intellectuelles de certaines exigences encore associées aux sciences, expliciter les étapes du raisonnement, soumettre les croyances à examen et distinguer une affirmation prouvée d'une simple opinion. La lecture procure moins un ensemble de réponses immédiatement transposables qu'une expérience précise de construction philosophique. Elle permet de voir comment Descartes articule méthode, doute, certitude, action morale et enquête sur la nature dans un même projet de réforme du savoir. Les lecteurs doivent néanmoins accepter un vocabulaire ancien, des démonstrations métaphysiques exigeantes et des théories scientifiques historiquement situées. Une édition accompagnée de notes et de repères facilite fortement cette approche, par rapport aux introductions contemporaines à la pensée critique. Le livre se distingue par son caractère inaugural et par la cohérence de son ambition, il ne propose pas seulement des conseils de raisonnement. Il cherche un fondement certain pour toutes les connaissances. Par rapport au traité purement scientifique de son époque, il place la question du sujet qui connaît au centre de la recherche. Cette combinaison entre récits intellectuels, règles simples et problèmes métaphysiques explique la permanence du discours dans les programmes et dans les débats sur la raison. Si vous souhaitez soutenir René Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réponses. À bientôt.